Mathieu Grouès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des gestions chez Lazard Frères Gestion. On va revenir avec vous sur les marchés et les perspectives sur ces marchés financiers. Peut-être votre premier regard sur ce qui s'est passé au cours du mois d'août notamment, et on a eu encore effectivement un début du mois de septembre assez agité. Est-ce que ça vous a conduit à quelque part revoir un peu l'analyse que vous aviez jusque-là, on va dire, des marchés?
Non, ça ne nous a pas amené à revoir notre analyse. Ça nous a montré qu'il y avait quand même une grande fragilité des marchés. Indiscutablement, hein, il y a là des surréactions qui sont très claires. Mais c'est vrai que l'été a été terrible, puisque l'été, c'est un moment où on a eu un cumul de négociations difficiles au niveau de l'Europe qui ont créé un doute sur la capacité des responsables européens à prendre les décisions. Juste après, on a eu la même question qui se posait de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que les responsables américains sont vraiment bien responsables complètement jusqu'au bout? Et donc ça a créé un doute et une défiance, à mon avis, par rapport au pouvoir dirigeant des grands pays développés.
Entre justement les États-Unis et la zone euro, on sent qu'aujourd'hui, il y a quelque part, les investisseurs disent que peut-être c'est plus dur encore dans la zone euro qu'aux États-Unis. Pourtant, quand on y regarde un peu de près, on a envie de dire que c'est presque similaire la situation.
La situation agrégée de la zone euro est beaucoup plus favorable en termes de déficit, puisque c'est le sujet du moment, que la situation américaine. Par contre, la différence, c'est que les États-Unis, c'est un pays, une banque centrale, un budget. Et nous, on a ce problème-là d'avoir aussi une banque centrale, mais face à plusieurs budgets, plusieurs dettes, et des dettes qui ne sont pas solidaires. Et donc, ça crée des capacités à douter sur les pays les plus faibles.
Est-ce que ce qui s'est passé sur les marchés, finalement, avec notamment sur la partie obligataire, on a vu ces peurs, on va dire presque hebdomadaires ou quotidiennes sur les marchés, est-ce que ça a conduit à des aberrations, selon vous, justement, sur certains actifs?
Ah bah, globalement, je pense que la plupart des actifs sont à des niveaux assez excessifs, voire aberrants. C'est-à-dire, c'est aussi vrai des taux d'État américains et allemands qui sont incroyablement bas, prêtés à l'Allemagne, même si l'Allemagne est un pays très, 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 très rigoureux, à moins de 2%, c'est quand même un peu douteux. Et à l'inverse, les actifs risqués, les dettes subordonnées des banques, les actions en général, les actions des banques, sont à des niveaux qui intègrent les scénarios les pires. Sachant que les scénarios les pires sont absolument pas certains, c'est peu de le dire, ils sont même extrêmement peu probables aujourd'hui.
Ça a été aussi hein, l'un des débats peut-être à nouveau de cet été, c'est-à-dire on le voit notamment certains intervenants aux États-Unis, certains économistes qui disent que effectivement on se rapproche d'un double dip ou on se rapproche d'une récession aux États-Unis. Finalement, on en a parlé au début de la crise, un peu après la crise, de ces questions-là, elle revient aujourd'hui. On veut encore pas la voir ou est-ce que c'est vraiment le scénario extrême?
Non, la récession aux États-Unis, c'est un scénario qui est apparu un peu brutalement pendant l'été. Ça faisait suite aux révisions du PIB au premier et au deuxième trimestre avec des PIB plus décevants qu'on pensait, une croissance beaucoup plus molle. C'est additionné à ça une enquête qui est dans la région de Philadelphie, l'enquête de la Fed de Philadelphie, qui a baissé très fortement à des niveaux qui correspondent habituellement à des niveaux de récession. Donc ça a créé un vrai doute. Quasiment toutes les statistiques depuis sont rassurantes. C'est-à-dire que les ventes au détail ont accéléré aux États-Unis en juillet, la production industrielle a accéléré, l'enquête non pas régionale mais nationale de confiance, l'ISM, dans le manufacturier ou dans les services, s'est maintenue à des niveaux satisfaisants. Et les inscriptions au chômage, qui sont l'indicateur le plus en temps réel de l'économie, vraiment celui qu'il faut suivre quand on s'inquiète d'une récession, n'en voit pas du tout de message inquiétant. Donc je pense que c'est un scénario qui est apparu au mois d'août, mais qui a partiellement disparu. Il n'est pas totalement évacué. Il faudra avoir encore quelques chiffres pour l'évacuer définitivement. Mais vu d'aujourd'hui, la probabilité est quand même beaucoup plus faible.
Alors clairement, hein, quand on suit ce courant d'investisseurs pessimistes sur les marchés, souvent ils mettent en avant le fait que la Réserve fédérale américaine aujourd'hui arrive un peu au bout de ce qu'elle pouvait faire. C'est un des éléments qui est mis en avant aujourd'hui, peut-être un peu plus encore que quelques semaines, c'est de dire finalement aujourd'hui les États, les autorités monétaires n'ont plus les moyens ou ce qu'elles ont fait, les premières mesures qu'elles ont faites n'ont pas permis à l'économie de repartir. Donc qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui à l'économie de repartir?
Non, c'est vrai que c'est une vraie question. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des chocs négatifs hein, qui expliquent que le ralentissement de l'économie n'est pas retombé toute seule. Ce n'était pas un soufflet. Il y a eu une envolée du prix du pétrole extrêmement violente qui a rogné sur le pouvoir d'achat et la consommation a été très mauvaise au deuxième trimestre aux États-Unis, en Allemagne. Donc, ça, c'est mécanique. Il y a eu le choc japonais qui a été très violent, qui a posé des problèmes dans certains secteurs industriels, mais dont l'économie n'est pas retombée toute seule. C'est vrai que là, elle est molle. Les marges de manœuvre sont plus faibles. La Banque centrale en a plus beaucoup. Les États n'en ont plus beaucoup, mais ils en ont encore. Hein. Obama va nous proposer un plan probablement dans les jours qui viennent. Et je crois qu'on a encore quelques moyens d'agir. Et je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire en fait d'agir, puisque l'économie, après un premier semestre très très faible, devrait a priori quand même réaccélérer tout doucement d'ici la fin de l'année.
C'est donc plus le scénario aujourd'hui que vous avancez et plus un scénario que la croissance restera faible, mais on ne retombera pas dans effectivement une récession.
Tout à fait, notre scénario, c'est ça. C'est une croissance molle autour de 1% plus en Europe l'année prochaine, autour de 2% aux États-Unis, ce qui est mou après la crise qu'on a connue. Mais ce n'est pas une récession et on n'a pas de signe tangible aujourd'hui d'une économie américaine ou européenne qui basculerait en récession.
Clairement, la zone euro, on en parlait, cette question de décision politique vis-à-vis des dettes souveraines hein, d'un certain nombre d'États. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a toujours cette défiance des investisseurs au jour le jour, que ce soit un jour sur l'Italie, un jour sur l'Espagne, voire d'autres pays. Votre point de vue, la confiance, elle peut revenir sur cette zone?
Oui, je pense que la confiance peut revenir, que la confiance va revenir. Mais après, on a toujours un problème de temps. C'est-à-dire que les marchés voudraient des choses instantanées ou quasi instantanées. Et là, on est dans le domaine budgétaire. Et un exercice budgétaire, c'est une année. Et donc, une amélioration tangible des déficits en Espagne, en Italie, au Portugal, en Irlande, c'est une question de trimestre au minimum. Et donc là, il y a une impatience des marchés. Et c'est vrai que le temps n'est pas le même entre les marchés et l'exécution budgétaire.
Alors, on a vu hein, au cours des derniers mois, côté investisseur, choix en tout cas d'investissement, la flambée de l'or. On a vu également pour le franc suisse. On a eu d'ailleurs des réactions de la Banque centrale suisse à ce propos sur l'échange. On a vu le Bund, on en a parlé. Est-ce que tant que ces éléments sont là, ça veut dire qu'il y a une partie des investisseurs qui aujourd'hui ne souhaitent pas prendre un risque?
C'est clair qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en attente, qui ne veulent pas prendre de risques, parce que la situation est très confuse, très incertaine. Elle repose sur des éléments qu'on n'aime pas beaucoup en tant qu'investisseur. Elle repose sur des décisions politiques. Et dans le politique, on n'est pas toujours sur les décisions les plus rationnelles. Il y a des aspects électoraux qui peuvent influencer. Donc là encore, je pense que l'aversion au risque est très grande. Les investisseurs ont du mal à retourner vers les actifs risqués. Mais avec le temps, les mesures se prenant, c'est un mouvement qui devrait s'opérer, puisqu'aujourd'hui, vous ne gagnez rien si vous ne prenez pas de risque. C'est bien l'idée, c'est que si vous allez sur du monétaire, vous avez zéro. Si vous allez sur du bund, vous n'avez même pas 2%. Et donc, c'est une façon, quelque part, d'obliger les investisseurs à se positionner sur des actifs plus risqués.
En conclusion, justement, c'est le pari que vous faites aujourd'hui sur un certain nombre j'imagine, de valeurs, de secteurs qui ont souffert des derniers mois de cette crise?
Nous, on a un positionnement sur tous les actifs dits risqués, hein, c'est-à-dire les actions, les emprunts high yield, les emprunts des dettes subordonnées financières. On a vraiment le sentiment que tous ces actifs sont vraiment bradés. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides pour investir, parce que la volatilité, c'est sans doute pas fini. Il y aura des moments sans doute douloureux, mais pour quelqu'un qui a un horizon de placement suffisamment long et des nerfs solides, je pense que c'est vraiment des actifs très intéressants.
Merci d'avoir fait le point avec nous hein, sur ces marchés. Mathieu Grouès, on rappelle que vous êtes le directeur des gestions chez Lazard Faire Gestion.
Merci.